Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et nous retrouvons Franck Ferrand pour une émission spéciale aujourd'hui depuis la chambre du roi au château de Versailles. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Il y a 300 ans, jour pour jour, ici même, dans cette chambre du roi où nous sommes, le plus grand monarque de l'histoire de France rendait son dernier soupir. À 8 heures passées, nous verrons exactement à quelle heure, ce 1er septembre 1715, Louis XIV cessait de respirer et de souffrir à l'issue d'un règne de 72 ans, dont 54 années de règne personnel. La plupart des Français de l'époque étaient nés sous le règne de Louis XIV, et pour une majorité d'entre eux, non seulement leurs parents, mais leurs grands-parents étaient nés sous Louis. Autant dire que, pour la France certes, mais plus généralement pour l'Europe de l'époque, ce trépas marquait un profond bouleversement. Trois siècles plus tard donc, le château de Versailles tient à marquer dignement l'événement et nous allons voir que toute la journée, les grandes orgues, les orgues des cliquots vont résonner dans la chapelle royale et l'accueil que le château réserve aux équipes d'Europe 1 n'est pas banal, c'est le moins qu'on puisse dire. Nos micros, nos consoles, nos pupitres sont installés, et je pense qu'il s'agit d'une première, au cœur même du Saint des Saints, dans la chambre où Louis XIV a vécu ses derniers instants il y a 300 ans. Je vous avoue que je suis très ému d'être assis juste devant le lit royal, dos à la balustrade, à l'endroit même où le grand roi prenait ses repas en public. Un grand merci à la présidence, à la conservation, aux équipes du domaine national de Versailles de nous permettre de réaliser cette émission, donc dans cette chambre où Louis XIV a dormi pendant 14 ans avant de mourir le 1er septembre 1715. Alors fermons les yeux, laissons-nous porter par la mémoire et par l'émotion. Nous sommes en 15, non pas 2015, mais 1715. Nous sommes en ce premier jour de septembre et Louis le Grand vient de s'éteindre.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Nous sommes donc dans la chambre de Louis XIV au château de Versailles et nous sommes reçus ici par celle qui règne sur les lieux, si je puis dire, par le directeur du musée des châteaux de Versailles et de Trianon. Bonjour Béatrix Saul.
Bonjour.
Et bonjour Alexandre Maral, vous êtes conservateur en chef au château de Versailles et vous avez écrit sur la mort de Louis XIV un très bel ouvrage sur lequel nous allons venir dans un instant. C'est un moment extraordinaire que vous nous offrez, Béatrix Saul. Nous sommes là au cœur même de l'événement, si je puis dire, à l'endroit même où le roi est mort ce matin.
Oui, et c'est un moment extraordinaire pour toute la France. Pendant longtemps, ça a été considéré comme n'étant pas un objet d'histoire. Aujourd'hui, nous mettons en évidence combien cette date du 1er septembre 1715 était importante. D'abord parce qu'elle mettait fin à une période qui avait transformé l'Europe, hein, pour en faire la première puissance européenne. Et puis aussi, 1715, c'était la mort du roi, la mort de celui qui était un peu une barrière contre les idées nouvelles, les idées de la France des Lumières, qui se développait depuis déjà 1680, et donc 1715 marque véritablement un tournant.
Oui.
Donc cette date de 1er septembre 1715 est essentielle dans l'histoire de France.
Alors c'est ici que le roi a rendu son dernier soupir. À quelle heure exactement, Alexandre Maral? C'est difficile de dire à quelle heure.
La seule indication précise que l'on ait, c'est le marquis de Danjou, le fidèle ami courtisan Louis XIV, qui a écrit dans son journal « Le roi est mort à 8h15 du matin ».
8h15, c'est-à-dire la moitié du deuxième quart.
Voilà. Oui. Donc ça fait vers 8h20, 8h25.
Mais tout le monde n'est pas parfaitement d'accord. D'autres ont noté une autre heure.
Ah ben oui, si on regarde la chose très précisément, on voit dans le registre des premiers gentilshommes de la chambre 8h05. On voit chez les Antoine 8h30 du quart, ce qui nous fait plutôt 8h07, 8h08. Mais enfin bon, on peut imaginer que les montres n'étaient pas exactement remontées à la même heure. Et à vrai dire, la chose n'a pas grande importance. On sait que le roi est mort aux alentours de 8h15.
Alors, on est dans les lieux mêmes. Ça, c'était extraordinairement émouvant. Cette chambre a été conçue pour Louis XIV en 1701. Auparavant, il était juste à côté. Hein, le grand salon que forme actuellement l'œil de bœuf était divisé en deux parties. Il y avait le salon des Bassans et la chambre du roi. Et ici où nous sommes, c'était le grand salon de Versailles qui devient donc la chambre de Louis XIV au cœur même du château, au centre de la perspective. Ça devient le cœur battant non seulement de Versailles, mais du royaume.
Oui, même si c'est pour des raisons tout à fait pragmatiques que la chambre du roi a été déplacée, parce qu'en vérité, il y avait une telle affluence au lever du roi qu'on avait été amené à séquencer ce lever en deux grands moments où il y avait le grand lever puis le petit lever, etc. Bon. Et il y avait tellement de monde dans la deuxième séquence que le roi a pris l'habitude de passer d'une chambre dans ce salon. Et en 1701, finalement, il trouve plus simple de transporter sa chambre. Mais ce faisant, il a supprimé à la Galerie des Glaces le salon central et la Galerie des Glaces, qui, on ne le dit pas assez, est née avec trois salons.
Et oui, et qui là aujourd'hui enfin, se retrouve donc coupée en quelque sorte.
Et la véritable entrée était par ce salon.
Et oui, voilà. On entrait dans la galerie par le salon central.
Et donc en 1701, les baies qui ouvrent sur la galerie sont supprimées et on place l'alcôve du roi. Et donc,
avec la France veillant sur le sommeil du roi.
Voilà, avec la France qui veille sur le sommeil du roi, donc au-dessus de l'impérial du lit. Alors, une raison pragmatique, mais aussi une raison symbolique extrêmement importante. Parce qu'il est certain que c'est la chambre du roi qui est la pièce la plus importante de la résidence royale. Il n'y a pas de véritable salle du trône à Versailles, et on peut dire que le lit, depuis le Moyen-Âge, a une valeur symbolique, le lit du roi, une valeur très symbolique très forte.
D'ailleurs, quand on passait devant ce lit, même lorsque le roi n'était pas là, lorsqu'on traversait la chambre du roi, il était d'usage pour les dames de faire une révérence et pour les messieurs de s'incliner, Alexandre Maral, devant le lit.
Devant le lit, le roi étant absent, évidemment, parce que c'est le symbole du corps du roi, devant lequel la dignité à laquelle on doit hommage.
Cette chambre, elle a été restaurée il y a une quarantaine d'années, entre 1975 et 1980. Elle avait été inaugurée en 1980. Est-ce qu'elle était identique à ce qu'a connu Louis XIV ?
Alors, les cheminées n'étaient pas identiques. Il n'y avait qu'une seule cheminée à l'époque, sur la paroi nord, et ce n'était pas la même cheminée. Mais sinon, les boiseries sont strictement les mêmes. Elles n'ont pas bougé. Les tableaux d'attique sont à peu près tous les mêmes.
Ils sont au-dessus de la corniche, au-dessus. Dans ce qu'on appelle l'attique, hein, éclairés eux-mêmes par trois fenêtres d'attique donnant sur la cour de marbre.
Et la sculpture qui domine l'alcôve, vous l'avez dit, Nicolas Coustou, la France veillant sur son roi, sculpture extrêmement importante parce que c'est une France qui tient un laurier, et un rameau d'olivier, c'est une France pacifique qui vient offrir la paix à l'Europe aussi. Et c'est le grand message de Louis XIV sur son lit de mort, c'est ce message de paix qu'il va délivrer, confier à son arrière-petit-fils.
Dans votre dos, Alexandre Maral, il y a le buste extraordinaire de Louis XIV, un des plus beaux bustes de Louis XIV, Béatrix Saul.
Oui, un des plus beaux bustes de Louis XIV, bien significatif de la fermeté du roi et de la majesté du roi. Cette fermeté qui se montrera jusqu'à son dernier soupir, justement, et qui fera l'admiration de tous. Parce que cette grandeur qu'il avait montrée dans sa vie, il l'a montrée encore davantage dans les derniers jours qu'il a vécu.
Alors évidemment, nous sommes au milieu des ors et du brocart. Ce sont parmi les plus belles boiseries de France qui sont là autour de nous, avec ces L entrelacées, bien entendu, le monogramme du roi, avec des couronnes, avec des fleurs de lys, avec tous les emblèmes de la royauté. Aujourd'hui, les contrevents sont fermés pour éviter au soleil de trop pénétrer dans la pièce, mais ça tombe bien, puisque c'est une atmosphère légèrement funèbre que nous voulons recréer. Nous sommes bien le 1er septembre 1715, et nous allons revivre, si vous le voulez bien dans un instant, la mort même de Louis XIV.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Avec une émission spéciale aujourd'hui, puisque Franck, vous êtes dans la chambre du roi au château de Versailles pour le 300e anniversaire de la mort de Louis XIV. Et nous sommes maintenant quelques semaines avant la mort du roi Soleil.
En cet été 1715, cela fait 72 ans que Louis XIV règne. 72 années qui ont vu se bâtir une œuvre immense, tissée de victoires militaires retentissantes, d'une réelle consolidation du pouvoir royal. Et peut-être d'abord, à nos yeux du XXIe siècle, d'un rayonnement artistique et culturel considérable. On parle encore, après Voltaire, du siècle de Louis XIV. Mais évidemment, 7 décennies de règne, même s'il n'y a que 5 décennies et demie de règne personnel, c'est long et très long. Nul ne peut alors l'ignorer. Ces couleurs si particulières que jette le soleil au crépuscule emplissent désormais le ciel versaillais. Les dernières années de Louis XIV ont apporté tout leur lot de drames drame sur le terrain militaire, puisqu'il y a eu cette guerre de succession d'Espagne absolument épuisante qui s'est conclue par un demi-échec à la saveur aigre-douce. Sur le plan dynastique, le roi a eu la douleur de perdre en peu de temps non seulement son fils unique, son fils le grand dauphin, deux de ses petits-fils, un arrière-petit-fils, pour ne laisser somme toute comme dauphin qu'un enfant de 5 ans. La cour vit dans une ambiance pesante et Louis XIV a beau être très robuste, sans qu'on ose se l'avouer, il faiblit. Il y a ici d'ailleurs, dans les salles consacrées au XVIIe siècle de l'aile du Nord du château de Versailles, la célèbre cire de Benoît qui nous montre Louis XIV à la fin de son règne. Et il est de profil, il est en cire, il est extrêmement réaliste, si je puis dire, il nous donne une image de ce qu'a pu être le grand roi à la fin de sa vie. Alors donc, c'est le 10 août 1715, alors que le roi se trouve à Marly, qu'un premier malaise commence à inquiéter non seulement le royaume, mais bientôt toute l'Europe, à intéresser l'Europe, devrais-je dire. Pendant l'été, le roi ne s'est pas ménagé entre la chasse qu'il continue de suivre, de très nombreuses réunions de travail, et puis bien sûr, cette continuelle représentation qui rythme son quotidien. Ce jour-là, un événement donc va troubler le cours d'une vie si bien réglée. Alors qu'il vient de déjeuner, Louis XIV ressent brusquement les effets d'une débilité d'estomac, nous disent ses médecins. C'est une douleur forte. Alors on lui donne du sirop d'opium qui paraît le soulager d'abord. On le ramène à Versailles et arrivé au château de Versailles, il peine à avaler quoi que ce soit. Voilà ce que nous disent ses serviteurs les plus proches, les frères Antoine dont parlait Béatrix Saul tout à l'heure. Il mangea peu et le souper fut très court. Il s'y trouva cependant une foule incroyable de personnes de toute qualité que le zèle, la politique ou la curiosité y avait attiré sur le bruit qui s'était répandu de l'accident qui était arrivé à Marly. Et oui, on est là à guetter la fin d'un homme qu'on sait âgé, très âgé, épuisé, très fatigué. Le soir, la faiblesse du roi est maintenant très évidente, il peine à se déplacer, la nuit va être difficile, c'est la première d'une longue série de nuits qu'on appellera bientôt des nuits d'agonie. Les jours qui suivent, entre assauts de douleur et légers mieux, chacun peut constater les changements du roi. Lui qui a toujours eu un appétit impressionnant, le voilà maintenant écœuré devant tout ce qu'on lui présente et il est totalement décharné, comme vidé de la vigueur qui jusqu'alors l'avait toujours animé. De plus en plus, Louis XIV se plaint de vives douleurs à la jambe gauche et son premier médecin, il s'appelle Fagon pense d'abord à une sciatique. Il peine à comprendre ce qui est en train de se passer, mais il sait son patient résistant. Il connaît parfaitement le passé médical extrêmement chargé de Louis XIV, qui a souffert beaucoup de la goutte, d'une fistule, qu'on connaît bien, d'un anthrax, de coliques néphrétiques, de fièvre, de troubles digestifs en tout genre. Bref, il a toujours surmonté tout cela avec cette robustesse extraordinaire qui le caractérise. Ce médecin, nous dit Joël Cornette à propos de Fagon, jouissait d'une grande réputation, grand botaniste, bon chimiste, habile connaisseur en chirurgie, excellent docteur et grand praticien. Reste qu'il a mal interprété la dernière maladie du roi en lui appliquant des traitements inadaptés au grand désespoir des valets, les mieux à même de suivre heure par heure la dégradation du corps de leur maître. C'est indéniable, le 13 août et les jours suivants, les indices alarmants se multiplient. Bientôt, une noirceur apparaît à la jambe. Louis XIV ne le sait pas, mais pour lui, le temps des dernières, si je puis ainsi m'exprimer, est venu. Dernière messe à la chapelle royale, dernière audience diplomatique, dernier déplacement. Bientôt, le roi finit par ne plus quitter son appartement. Et le 24 août, le mot implacable est lancé. C'est la gangrène. Cette terrible maladie, nous dit Alexandre Maral, due à une obstruction des vaisseaux sanguins, probablement causée par des caillots, est identifiée par les médecins qui observent dès le matin, je cite, « une noirceur au-dessus de la jarretière ». Le soir, la putréfaction a fait de spectaculaires progrès, puisque la noirceur a gagné l'ensemble du pied. Louis XIV comprend subitement qu'il s'agit d'une maladie beaucoup plus sérieuse que ce qu'il pensait, et qu'il risque sa vie. Le roi, à partir de ce moment, est conscient, et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'il va organiser lui-même la mise en scène de sa propre mort. Car dès lors que le grand roi prend conscience de son état, il va gérer, si je puis dire, lui-même le déroulement de cette mort. D'abord, il décide de se confesser. C'est le premier geste de ce qui va occuper le reste de ses jours, préparer sa mort pour lui et pour le royaume, évidemment. Rapidement, malgré l'épuisement, voulant, semble-t-il, profiter encore de sa lucidité, le roi agi. Voilà ce que note Alexandre Maral à propos de la journée du 25 août, jour de la Saint-Louis. C'est la fête du roi, c'est la fête nationale, si je puis dire à l'époque. L'amertume résignée de la veille, l'attente mélancolique du matin fait subitement place à une volonté de prendre entièrement la situation en main.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et c'est une émission spéciale au cœur de l'histoire cet après-midi sur Europe 1, émission depuis la chambre du roi du château de Versailles, car aujourd'hui, Franck, cela fait 300 ans que Louis XIV est mort.
Louis XIV a reçu le viatique, l'Eucharistie du mourant et l'extrême onction. Le roi appelle successivement auprès de lui les grands acteurs de cette régence qu'il est en train d'organiser, qu'il a organisé dans son testament. Il s'agit de favoriser une bonne transition politique. Alors, Louis XIV va rassurer son neveu, le duc d'Orléans, le fils de monsieur. Contrairement à ce que certains pouvaient conjecturer, ce ne sera pas son petit-fils devenu roi d'Espagne, Philippe V, qui assurera la régence à distance. C'est bien lui, c'est bien le duc d'Orléans. Le roi appelle aussi à son chevet l'un de ses bâtards légitimés, le duc du Maine, à qui il entend donner un rôle important après sa mort. Il faut vous dire qu'on l'a beaucoup travaillé en ce sens, et que madame de Maintenon, qui protège beaucoup le duc du Maine, a beaucoup travaillé dans ces journées d'août 1715. Le 26 août est le jour des grands adieux aux membres de la famille royale, aux cardinaux, aux grands officiers de la cour, à qui Louis XIV lance son fameux « Je m'en vais, mais l'État demeurera toujours ». Il est temps aussi de dire adieu à madame de Maintenon. L'émotion est palpable dans cette chambre où nous sommes. Chacun est frappé par la dignité du monarque qui, même anéanti par la souffrance, dégage une puissance extraordinaire. Et jusqu'au bout, on peut dire que le spectacle qui devient un grand spectacle sombre et tragique, ce spectacle continue. Le point culminant des adieux, c'est évidemment vers midi, ce 26 août, l'entretien avec l'arrière-petit-fils du roi, celui qui est appelé à lui succéder. Alors on fait entrer le jeune dauphin qui est très impressionné, évidemment. On l'installe dans un fauteuil près du lit. Et voilà ce que lui dit le monarque à l'agonie. « Mon cher enfant, vous allez être le plus grand roi du monde. N'oubliez jamais les obligations que vous avez à Dieu. Ne m'imitez pas dans les guerres. Tâchez de maintenir toujours la paix avec vos voisins, de soulager votre peuple autant que vous pourrez, ce que j'ai eu le malheur de ne pouvoir faire par les nécessités de l'État. Suivez toujours les bons conseils et songez bien que c'est à Dieu à qui vous devez tout ce que vous êtes. » Ce sont des adieux poignants, bien entendu. Alors évidemment, on continue à soigner le roi. Il faut imaginer les coups de lancette donnés par Maréchal, le premier chirurgien, dans la chair en putréfaction du malade, et qui confirme que la gangrène atteint des proportions critiques. Cette fois, on le sait, la France, l'Europe le savent, le dénouement approche. Le roi brave encore la souffrance, il trouve la force d'arrêter quelques décisions, il trie ses papiers personnels et le jour qui suit, il indique qu'il souhaite qu'après sa mort, son corps soit placé comme celui de son père à la maison professe des Jésuites. Et madame de Maintenon est là, bien entendu, qui l'assiste, qui est presque constamment à son chevet, il lui dit « J'ai toujours ouï dire qu'il est difficile de mourir. Eh bien pour moi, qui suis sur le point de ce moment si redoutable aux hommes, je ne trouve pas que cela soit si difficile. » Alors que le 28 août, l'état du roi semble encore s'être dégradé, un mystérieux homme nommé Brun, venu de Marseille, se présente à la cour. Il prétend posséder un remède contre les gangrènes. Alors de toute façon, on n'a aucun autre recours, donc on choisit d'administrer le fameux remède aux mourants. Ça lui donne sans doute un léger sursaut qui va susciter chez certains un improbable espoir. Mais très vite, on en revient à la réalité. Le roi se meurt. Le 30 août, les moments de conscience se font de plus en plus rares. Et le lendemain, 31 août, autour de 22h30, on décide de commencer les prières aux agonisants. Récitées collectivement et en faisant éventuellement alterner deux chœurs, précise Alexandre Maral, ces prières très longues sont destinées à accompagner le mourant jusqu'au dernier moment. Et l'on voit le roi, on l'entend, qui machinalement, sans doute, reprend l'Ave Maria et le credo qu'il a si souvent récité au cours de son existence. On l'entend répéter « Nunc et in hora mortis » maintenant et à l'heure de la mort et dire « Faites-moi miséricorde, ô mon Dieu, venez à mon aide, hâtez-vous de me secourir, hâtez-vous de me secourir, ce seront ses dernières paroles. Elles sont prononcées au milieu de la nuit du 31 août au 1er septembre 1715. Et aux alentours de 5 heures du matin, il semble bien que la vie ait quitté le roi. Alors on passe son temps à s'approcher bien sûr de lui, à essayer de le scruter au plus près pour voir s'il respire encore. Et oui, il reste un léger, un tout léger souffle qui fait encore trembler la bougie qu'on avance devant la laine du roi. Enfin, à 8h23 si l'on en croit le bon d'Anjou, après quelques petits soupirs et deux hoquets, Louis XIV rend l'âme comme une chandelle qui s'éteint. Il l'avait dit, je m'en vais, mais l'État demeurera toujours, et ce qui demeure et ce qui maintient évidemment en vie cette monarchie maintenant millénaire, c'est tout le protocole, c'est tous les rites qui accompagnent cette mort et sur lesquels nous allons nous étendre dans un instant. Il faut imaginer que le duc de Bouillon, qui est grand chambellan, prend son chapeau à plumet noir, qu'il s'avance sur le balcon qui est là juste en face de moi, le balcon donnant sur la cour de marbre, et qu'il lance « Le roi Louis XIV est mort ». Puis il se retire et après un moment, il reparaît, cette fois coiffé du chapeau à plumet blanc, et il lance par trois fois, oui par trois fois, « Vive le roi Louis XV !» C'est déjà le nouveau règne qui commence.
Du grand livre d'orgue composé par Louis Couperin, l'instant sur Europe 1. Restez avec nous, dans un instant Franck Ferrand revient pour célébrer sur Europe 1 le tricentenaire de la mort de Louis XIV.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi sur Europe 1, c'est une émission spéciale que vous nous proposez, Franck Ferrand, depuis la chambre du roi du château de Versailles pour le tricentenaire de la mort de Louis XIV, avec vos invités, Béatrix Saul, directeur conservateur général du Musée national des châteaux de Versailles et du Trianon, et Alexandre Maral, conservateur en chef au château de Versailles.
Nous sommes toujours, chère Anissa, dans la chambre du roi au château de Versailles, à l'endroit précis où Louis XIV est mort, au petit matin du 1er septembre 1715, après bien des souffrances, Alexandre Maral.
Oui, puisque sa maladie commence le 10 août, il ressent des douleurs assez fortes et on décide à ce moment-là de quitter Marly, où il résidait depuis le mois de juin. Pour
revenir. Il n'est pas question que le roi meure ailleurs qu'à Versailles.
Même soit malade, tout est mieux prévu, mieux organisé ici à Versailles. C'est à Versailles qu'il faut être malade, dira le médecin Louis XV.
Ça, c'est au règne suivant, oui, en 1774.
C'est une règle qui vaut mieux, en cas de maladie, être dans la résidence principale.
Alors, le roi est atteint de gangrène, ça se sait évidemment, le bruit va bientôt courir.
Alors, pas tout de suite, au départ, même le médecin Fagon, le premier médecin, n'y voit rien. Il diagnostique une sciatique. On ne parle pas de gangrène tout de suite. Il sent que ce soit Maréchal, le premier chirurgien, qui se rende compte le premier de la gravité de la maladie. Et il va s'en rendre compte peu à peu. Il ne prononce véritablement le mot que le 24 août. Et là, il est extrêmement tard à ce moment-là.
Vous l'avez dit tout à l'heure, Béatrix Saul, la figure de Louis XIV domine complètement la politique européenne depuis des décennies maintenant. Tous les souverains qui sont sur le trône à l'époque dans toute l'Europe n'ont connu que Louis XIV. Et donc l'idée que ce règne s'achève suscite à la fois beaucoup d'espoir chez certains et beaucoup d'inquiétude chez d'autres.
Oui, évidemment, les sentiments sont partagés par rapport à cet événement. Mais aussi ce qui frappe, c'est la relative brièveté de l'événement. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, la fin paraît inéluctable seulement autour du 24-25 août. Et donc c'est en une semaine seulement que le roi disparaît. Ce qui va expliquer beaucoup de phénomènes qui vont se passer durant toutes les funérailles. parce que le roi qui a été tellement soucieux d'organiser la régence et comment le gouvernement pourra poursuivre après sa mort, n'a rien dit en ce qui concerne ses funérailles, oui. Sauf ce que vous évoquiez tout à l'heure,
c'était concernant son cœur.
Son cœur à l'église professe des jésuites. Mais en dehors de cela, il n'a pas du tout dit quel était le cérémonial à suivre.
Or, il y avait deux possibilités. Le précédent cérémonial est très ancien, il date de 1643.
Et il y avait même dans le cérémonial monarchique, encore à cette époque-là, il pouvait y avoir encore une hésitation entre le cérémonial ancien monarchique français, le grand cérémonial avec effigie et chambre des honneurs, une effigie qu'on continuait à servir.
Ce qu'on appelle une effigie, c'est une statue en cire. Voilà. Alors, si vous le voulez, Béatrix, on reviendra dans un instant sur toutes ces funérailles, sur les obsèques du roi et sur toutes les décisions qu'il a fallu prendre et qui ont fait, en quelque sorte, si je puis dire, jurisprudence, non seulement pour la Cour de France, mais pour quelques autres. Mmh. On va y venir dans un instant. Accompagnons-le pour l'instant jusqu'à la mort. Or, si je puis dire, le 25 août, c'est la Saint-Louis. Le roi ne peut pas présider lui-même la revue militaire. Il envoie son fils légitimé, le duc du Maine, avec le futur roi, le petit dauphin.
Oui, il y a déjà l'idée de donner au duc du Maine une place importante, de la faire reconnaître. Et donc, cette revue est extrêmement importante aux yeux du roi. Pour lui, elle doit préfigurer ce que va être la situation après sa mort.
Alors, qu'en est-il du fameux testament ? On dit que, comme le dit Béatrix Hall, il y a une certaine précipitation, une certaine urgence pendant ces jours où l'on voit que le roi est en train de partir. On s'inquiète beaucoup de savoir qui va diriger cette fameuse régence, puisque le petit roi est tout à fait mineur. Il n'a que 5 ans, le petit Louis XV.
5 ans et quelques mois, il est de février. Le testament, lui, date de l'année précédente. Il a été rédigé en juillet-août 1714 et il prévoit l'instauration évidemment d'une régence confiée au duc d'Orléans, non pas avec le titre
donc au neveu du roi.
Neveu du roi, non pas avec le titre de régent, mais de chef du conseil de régence, donc, c'est-à-dire une direction collégiale. Une
régence... Philippe d'Orléans n'est pas le régent, d'après le testament.
Il n'est pas tout seul, en tout cas. Oui. Et donc, Philippe d'Orléans va n'avoir de cesse de vouloir modifier cette clause. On a dit qu'il avait cassé, c'est faux. Le testament n'a pas été cassé, mais simplement, cette clause a été annulée et on est revenu à l'idée d'une régence pleine et entière telle que l'avait eue Anne d'Autriche, puisqu'elle aussi avait dû faire modifier la clause du testament de son époux et elle était devenue régente à part entière.
On n'imagine pas ce que pouvait être la figure tutélaire de Louis XIV pour tous ceux qui vivaient à la cour à l'époque et depuis si longtemps.
À la cour et en Europe, il y a cette phrase qui circule, alors elle est peut-être apocryphe, mais en tout cas elle est très véridique, très vraisemblable. C'est le roi Sergent, le père de Frédéric II en Prusse, qui apprenant la mort de Louis XIV dit à son entourage, messieurs, le roi est mort et il n'est pas besoin de préciser de quel roi il s'agit.
C'est un peu
quand
comme
on dit le roi, c'est Louis XIV.
Et je lui souhaite le plus long règne encore possible, mais c'est un peu comme quand on dit la reine aujourd'hui, on pense tout de suite à la reine Élisabeth d'Angleterre. C'est-à-dire que la figure de Louis XIV s'est confondue avec l'idée monarchique,
de royauté,
bien entendu.
Oui.
Et à un point qu'évidemment, on n'imagine pas à Versailles qu'il puisse mourir. Lorsque ses serviteurs fondent en larmes autour du lit,
oui,
il y a sans doute aussi...
Vous m'avez cru immortel.
C'est ça.
Oui.
Pour moi, je ne l'ai jamais cru, dit le roi.
Ça, c'est le 27 août, lorsqu'il prévoit que son successeur doit aller à Vincennes. Il parle du roi et ça étonne beaucoup son entourage. Il dit, mais non, c'est le roi, ça ne me... Lui a conscience qu'il s'en va et il n'y a pas de difficulté là-dessus.
On avait vécu une scène assez similaire au moment de la mort de Louis XIII. Puisque Louis XIII avait demandé lors de la dernière entrevue à son fils « Comment avez-vous nom maintenant ?» Louis XIV avait répondu le petit, qui avait 5 ans, lui aussi, hein, décidément. Il y a un parallélisme assez étrange. Louis XIII était le père de Louis XIV. Louis XIV est l'arrière-grand-père de Louis XV. C'est un enfant auquel on fait très attention, Béatrix, parce qu'il est le dernier espoir de la monarchie, en fait.
Alors, c'est un enfant qui... est extrêmement surveillé et qui est d'une santé pas bonne santé, donc en plus on est très très inquiet. Son frère aîné est mort, tous ses parents sont morts, c'est vraiment le dernier espoir et il a des fièvres, donc il y a une inquiétude perpétuelle autour du petit Louis XV.
Quels sont les témoins qui nous permettent de connaître de l'intérieur, si je puis dire, les dernières heures de Louis XIV? Quelles sont les sources?
Les sources manuscrites sont nombreuses. Le journal de d'Anjou, du marquis de d'Anjou, est vraiment la source première, à tel point que les cérémoniaires, dans leur journal, disent que pour le récit de la mort du roi, il faut s'en remettre au journal de d'Anjou. Le journal des Antoines est beaucoup plus développé aussi, s'appuie beaucoup plus sur les considérations pratiques, alors que le journal d'Anjou a tout de même une vision beaucoup plus politique. Et donc il y a ces trois grands témoignages, le journal des Antoines, le journal de d'Anjou et le registre des premiers gentilshommes de la Chambre, qui eux sont purement protocole.
Et à partir du moment où le roi est mort, on va passer évidemment à la pompe funèbre, c'est ainsi qu'on parle ?
Alors oui, mais auparavant, il y a juste après la mort, les valets de chambre qui viennent fermer les yeux du roi et lui fixer un bandeau pour maintenir la bouche fermée, parce que le roi va être présenté dans son corps pendant une journée entière, la journée du trépas, le 1er septembre. Ce sera le seul
Quand
jour...
Quand vous dites dans son corps, c'est-à-dire lui-même, on le
lui-même,
voit en fait. Oui.
C'est-à-dire ce sera le seul jour où on le verra. Donc il est là dans son corps, dans cette chambre.
Donc on a ouvert les rideaux et les courtines là du lit, bien entendu,
oui.
Pour que les gens puissent le voir.
Les gens puissent le voir. Et donc on va d'abord faire en sorte que le lit soit bien présentable, c'est-à-dire qu'on sort le corps du roi du lit, on change sa chemise, on l'assied avec des coussins, il va être donc visible. Et pendant toute la matinée, on va dresser des autels à la place des cheminées dans cette pièce-là. Il va y avoir déjà la première messe qui va être dite et ensuite des messes qui vont se continuer jusqu'à midi. À midi, on ouvre la porte qui est derrière moi et à ce moment-là, toute la foule peut passer. Alors une foule qui n'est pas du tout ordonnée, organisée. C'est vraiment un concours de peuple et qui ne va pas s'arrêter. D'ailleurs,
il n'y a pas, là, pour le coup, on ne respecte pas d'étiquette ou de protocole.
Non,
les gens
tout.
Arrivent comme, dans l'ordre où ils arrivent.
Voilà,
en fait, hein.
C'est le premier jour. Et les gens, et il y a eu un concours de monde extrêmement important. Et d'ailleurs, dans les derniers jours de la mort de Louis XIV, il est noté qu'il y avait beaucoup de monde en foule qui venait pour savoir ce qui se passait.
Quand vous dites du monde, ça ne sont pas forcément des membres de la cour. Ça peut être des gens qui viennent de l'extérieur. Hein.
Exactement. Il y a eu grand concours de population qui est venu pour savoir ce qu'il en était et pour être aux dernières nouvelles. Alors là, tout le monde passe et ne s'arrête pas. C'est-à-dire, il y a une crédence qui a été mise devant le lit avec un crucifix et deux chandeliers qui ont été pris à la chapelle. Mais on n'asperge pas le corps comme ça va être fait plus tard dans la chambre d'honneur.
Alors où est-elle, cette chambre d'honneur ?
Dans le salon de Mercure.
Voilà.
C'est-à-dire le salon de Mercure dans le grand appartement du roi. Alors là aussi, c'est pas tout à fait une affaire de protocole, c'est véritablement, on pose la question au roi, le premier gentilhomme de la chambre interroge le régent et lui dit « Où va-t-on ensuite exposer le roi ?» C'est alors que le régent, par simple commodité, dit qu'on va le placer dans le salon de Mercure parce que c'est plus facile.
Qui est l'ancienne chambre du grand appartement.
Voilà,
en fait, hein.
C'est plus facile pour organiser toutes les prières. Le salon de Mars pourra servir pour la musique. Le salon d'Apollon sera utilisé comme sacristie. Donc les espaces sont beaucoup plus grands et donc se prêtent beaucoup plus à l'exposition du roi. Mais entre-temps, entre les deux expositions, il y a eu un moment très dur et très tragique, c'est l'autopsie, l'ouverture et l'embaumement.
Nous y venons dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Louis XIV est mort le 1er septembre 1715, il y a 300 ans aujourd'hui. Et pour cette émission spéciale, Franck Ferrand, vous recevez cet après-midi sur Europe 1 Béatrix Saul, qui est directeur conservateur général du Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, et Alexandre Maral, conservateur en chef au château de Versailles.
Nous vivons, chère Anissa, des moments inoubliables ici pour le tricentenaire de la mort de Louis XIV. Nous sommes dans la chambre du roi à Versailles, à l'endroit même où se trouvait la crédence, comme vous disiez, Béatrix Saul, devant le lit du roi. Le roi était exposé pendant une journée. La population qui passait entrait par le salon de l'œil de bœuf et sortait par le cabinet du conseil, donc entrait par la porte qui est dans votre dos et sortait par celle qui est dans le dos d'Alexandre Maral. Là, en fait.
Et ça a été indéfini. Continuel.
Et puis, le deuxième jour, on va autopsier le roi.
Le 2 septembre au matin, on transporte le corps du roi dans le salon de l'œil de bœuf, c'est-à-dire juste dans la pièce qui est derrière moi, et on place une longue table étroite. Ça va être la table de l'autopsie. La veille, les médecins de la faculté de Paris ont été convoqués par le cérémoniaire des Granges, de façon à ce qu'ils soient nombreux. Les grands seigneurs, il y a un grand officier, un grand seigneur qui doit, par le protocole, assister à cette ouverture. Et c'est Maréchal, le premier chirurgien du roi, qui va procéder à l'ouverture du corps. donc l'autopsie qui permet de savoir quelle est la véritable cause de la mort du roi. En l'occurrence, là, il n'y avait pas d'hésitation. Mais c'est là que le procès-verbal qui a été dicté par Fagon nous renseigne.
Le premier médecin, donc.
Le premier médecin nous renseigne exactement sur la gangrène qui allait de l'extrémité des pieds jusqu'à la tête. On constate d'ailleurs que la plupart des organes étaient sains, mais que le roi avait certainement dû souffrir énormément parce que, d'après le médecin légiste Philippe Charlier, qui a étudié la question pour justement l'exposition, il devait y avoir des nécroses. Il a
dû souffrir. Ont dû être
une souffrance énorme, on s'en doutait, ça a été rapporté, mais le diagnostic du médecin
le confirme. Et oui, Louis XIV était particulièrement endurant, dur à la douleur et à la souffrance. Il faut dire que c'était le cas d'une manière plus générale au XVIIe et au XVIIIe siècle, Alexandre Maral, mais il a eu pendant tout le cours de son règne un certain nombre de misères, si je puis dire.
Il a la chance jusqu'en 1711 de posséder le journal de santé rédigé par ses médecins au jour le jour. Et on voit qu'il a continuellement des maladies, des malaises, des troubles. Et donc, et ça a sorti de tout ce cortège de souffrances, effectivement. C'est un roi qui a eu affaire toute sa vie aux médecins, et d'autant plus qu'il était roi. Et
on se rappelle la fameuse opération dans la bouche. On lui avait arraché un petit morceau du palais.
En 86, ouais. L'opération des dents. On lui arrache ses dents, et on cicatrise au fer rouge.
Et puis la célèbre opération de la fistule que j'avais eu l'occasion de raconter à ce même micro, qui est une horreur également.
Oui, enfin, c'est tout ça sans anesthésie.
Oui, c'était un peu une torture. Alors, Béatrix, que se passe-t-il dans le salon de Mercure, qui va être la chambre funéraire en quelque sorte du roi, dans les jours qui suivent?
Donc, le même jour que l'autopsie et l'embaumement dans le salon de l'œil de bœuf, on transporte donc le cercueil fermé. Parce que le corps du roi a été placé dans deux cercueils. Un cercueil de plomb qui a été immédiatement soudé par un plombier dans l'œil de bœuf même. Et un cercueil de bois qui est recouvert de draps noirs avec une grande croix d'argent. Il y a eu la tripartition qui est une tradition monarchique française qui fait que le cœur étant éviscéré à l'embaumement, les viscères sont placés dans un baril de plomb. Donc d'un côté il y a les viscères, de l'autre côté le corps, et le cœur a été enlevé en premier et va être placé dans une boîte de plomb également, recouverte d'une boîte d'or. Et donc il y aura la tripartition du corps, le cœur qui sera porté à l'église prophète des Jésuites, les entrailles qui seront portées à Notre-Dame de Paris, et le corps qui sera porté à Saint-Denis. Alors, dans le salon de Mercure, en vérité, on ne va pas voir le roi, ni son corps, ni en effigie. En vérité, c'est le cercueil du roi qui est placé sur des banquettes qui font office de tréteaux. Sur ce cercueil, on place la boîte du cœur et on place dessus le grand poil de la couronne, c'est-à-dire un drap d'or et de feu qui était traditionnellement, qui recouvrait le cercueil. Et il va y avoir sans arrêt, en se relayant, 72 ecclésiastiques qui vont réciter des messes, des prières, des De Profundis, des Requiem, des Miserere, etc.
Alors je signale à ce propos qu'aujourd'hui, 1er septembre, pendant toute la journée, les quatre organistes titulaires de... Alors là, je parle du 1er septembre 2015. Hein, les organistes titulaires de l'orgue de la Chapelle Royale, Michel Bouvard, François Espinasse, Frédéric Desenclos et Jean-Baptiste Robin vont jouer tout au long de la journée. Là, ils ont commencé tout à l'heure à 10h et jusqu'à 18h, ils se relaient pour jouer les 15 premières minutes de chaque heure. Et puis, ce soir à 18h, ils vont proposer une heure de concert avec un programme qui fera la part belle, bien sûr, aux grands compositeurs du règne, Couperin, Lully, Marchand et quelques autres. C'est votre façon, en quelque sorte, de célébrer la chose. Il y a également cette grande exposition qui va s'ouvrir le 27 octobre prochain, qui s'appelle tout simplement « Le roi est mort ».
Oui, on a presque le même délai entre la célébration le 1er septembre et le grand service à Saint-Denis qui s'est tenu en vérité le 23 octobre. Mm-hmm. Donc ce délai qui a été mis à profit pour organiser tout le grand service de Saint-Denis et en particulier la création du grand catafalque qui était la chose la plus extraordinaire qui soit.
Et ce que vous nous dites, Béatrix Saul, c'est que, si je puis dire, la messe d'enterrement de Louis XIV, ses obsèques, ont eu lieu plus d'un mois, presque deux mois après sa mort, le 23 octobre 1715.
Oui, c'était l'usage parce que la cathédrale de Saint-Denis devait être entièrement
préparée
pour ce service. Et Il fallait que l'administration des menus plaisirs qui en était chargée ait le temps de concevoir et de réaliser tout ce décor.
C'est quoi ce catafalque dont vous parlez ?
Alors ce catafalque est un immense monument d'architecture éphémère, de bois sculpté, doré, où les emblèmes royaux se multiplient, mêlés à des symboles de la mort, à des squelettes, à des os, à des larmes, et qui exalte la personne du défunt et qui est placé au centre du cœur lors de la cérémonie de la messe des funérailles.
Ça devait être un spectacle tout simplement extraordinaire.
Ah ben c'est tout à fait dans le goût baroque. D'ailleurs, cette mode vient d'Italie. Et les dessinateurs de la chambre et du cabinet qui sont chargés de concevoir ce monument rivalisent d'invention. Et c'est un monument qui atteint des dizaines de mètres et qui va du sol jusqu'aux clés de voûte de l'église de Saint-Denis.
C'est important de rappeler cet extraordinaire protocole et ce cérémonial hors du commun, car on a longtemps eu l'image d'obsèques faites en catimini, Alexandre Maral. On disait en gros que Louis XIV avait presque été enterré, ça faisait partie des rumeurs, ça, et de la vulgate, si je puis dire.
Ça vient de Voltaire, qui écrit bien après, puis dans un tout autre esprit, évidemment. En fait, le cortège funèbre quitte Versailles le soir et arrive à Saint-Denis à l'aube du lendemain. Le parcours a lieu dans la nuit, c'est, symboliquement c'est très beau, mais c'est un parcours qui se fait à pied, donc il faut évidemment, ça prend du temps. Il y a un millier de personnes qui font partie du cortège funèbre. Il n'y a rien là de clandestin ou de secret.
Au contraire,
on tient des torches et c'est très spectaculaire là aussi.
Oui, c'était une des grandes messes, si je puis dire, de la monarchie française de l'époque, que ces grandes obsèques avec le catafalque, l'oraison funèbre, bien entendu, qui a été prononcée en l'occurrence par qui, l'oraison funèbre de Louis XIV ?
Alors, par l'évêque de Castres à Saint-Denis, par Quiconque Beaujeu. On n'en a pas gardé le souvenir. On a gardé le souvenir de celle prononcée par Massillon, Dieu seul est grand, mes frères, mais qui n'était pas prononcée à Saint-Denis, mais prononcée à la Sainte-Chapelle le 17 décembre suivant. Et ce qui est intéressant, c'est que justement cette adresse « Dieu seul est grand, mes frères », en vérité, qui est si frappante, en vérité, elle a été inventée par Massillon pour éviter d'avoir à s'adresser au doyen de la Sainte-Chapelle auquel il ne voulait pas avoir à donner des titres auxquels il n'avait pas droit. Donc c'est tout à fait de façon fortuite que pour éviter l'adresse, il y a eu cette envolée « Dieu seul est grand, mes frères » qui est absolument extraordinaire et qui fait sans doute référence aussi au fait que Louis XIV avait été surnommé le Grand par les magistrats de la ville de Paris en 1678. Et donc, Louis le Grand, Dieu seul est grand, mes frères, c'était extraordinaire.
Oui, c'était même assez audacieux, disons-le. Qu'est-ce qu'on va voir concrètement dans cette exposition qui s'ouvre au château de Versailles le 27 octobre prochain, Béatrix Saul ?
Le fil rouge, c'est bien sûr les funérailles de Louis XIV elle-même. Après une évocation rapide de cette longueur du règne des médailles d'or et par quelques allégories, nous allons suivre véritablement les moments de sa mort. Ensuite, il y a une section sur l'autopsie et l'embaumement, car ce sont des moments qui n'ont jamais été véritablement étudiés, donc c'était l'occasion. Ensuite, l'exposition, nous allons regarder en quoi le cérémonial de l'exposition de Louis XIV s'inscrit en rupture ou en continuité de ce qui se faisait auparavant en France et à l'étranger. Ensuite, nous avons toute une section sur le deuil à la cour. Alors, le deuil à la cour n'a jamais été étudié. On parle de grand deuil, de demi-deuil, de petit deuil. Là, ça a été l'occasion, il y a eu beaucoup de découvertes.
D'éclaircir tout ça.
Et de voir véritablement la durée du deuil, qui décidait de la prise de deuil. On apprend d'ailleurs avec étonnement qu'on ne prenait pas le deuil pour les descendants, que ce soit dans les familles, l'usage commun ou que ce soit l'usage à la cour. À la cour ou au deuil commun se superposaient les deuils officiels, le roi décidant ou non. Et donc, on peut dire que la cour, à la fin du règne de Louis XIV, était très souvent en deuil, à tel point qu'un Allemand donne conseil à un de ses amis qui part pour Paris de prendre un habit de deuil
parce qu'à
la cour on est toujours en deuil et qu'à Paris on suit la mode de la cour.
Et voilà, donc il faut se mettre.
Ensuite, donc le deuil, le convoi, la cérémonie à Saint-Denis avec Pierluigi Pizzi. On a.
Le scénographe.
Oui, le scénographe. On a osé imaginer une maquette du grand catafalque. Et bizarrement, il n'y a eu aucune gravure.
Mais c'est une maquette grandeur nature ?
Au cinquième.
Ah oui, donc on va voir.
Au cinquième. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est de la hauteur de toute la voûte, elle est dans le vestibule des salles où a lieu l'exposition, et elle prend toute la hauteur, mais elle est au cinquième. Elle,
oh là bon, là.
Donc elle
on
est
imagine
haute
ce que
de
ça
5
doit
à 6
être.
Mètres. Et voilà. Donc pour donner une idée de ce que ça pouvait être, parce qu'on a énormément de mal à s'imaginer, et ce d'autant plus que bizarrement, il n'y a pas eu de gravure représentant le catafalque de Louis XIV à Saint-Denis, alors qu'on en a eu plusieurs pour la reine Marie-Thérèse. Et on peut penser que c'est parce que le régent n'a pas commandé, il avait d'autres choses à faire, et puis il ne portait pas trop dans son cœur Louis XIV. Et puis ça s'est fait tout de même assez en hâte, mais c'est tout de même une énigme.
On reviendra bien entendu sur cette exposition qui aura lieu à partir du 27 octobre prochain, ici au château de Versailles. Et l'exposition n'est pas seule, il y a le catalogue, bien entendu, qui fait état de toutes les découvertes, de toutes les recherches qui ont été menées pendant des mois pour préparer cette exposition et pour approfondir la connaissance de la pompe funèbre et royale, ce qui était très méconnu jusqu'alors. À l'occasion du tricentenaire de la mort de Louis XIV, sont parus un très grand nombre d'ouvrages. Je ne peux pas tous vous les citer, j'en ai une pleine page là pour tout vous dire. Je n'en citerai que deux. Celui évidemment d'Alexandre Maral, Les derniers jours de Louis XIV dans la collection Pour l'histoire chez Perrin. Et là on suit vraiment quasiment heure par heure hein, les derniers instants du grand roi. Et puis dans la célèbre collection Les journées qui ont fait la France chez Gallimard, de Joël Cornette, La mort de Louis XIV, apogée et crépuscule de la royauté. Là c'est une vision, je dirais, plus politique et plus générale du sujet. Il faudrait citer beaucoup d'expositions aussi, j'en cite deux. Louis XIV et son maître de cérémonie Louis-Nicolas de Breteuil au château de Breteuil à partir de maintenant, hein, c'est jusqu'au 29 novembre prochain. Et puis Être femme sous Louis XIV, du mythe à la réalité au musée Promenade de Marly-le-Roi, ça commencera le 3 octobre prochain. Encore une fois, merci infiniment de nous avoir reçus, Béatrix Saul, dans cette chambre du roi du château de Versailles. Il nous reste quelques instants pour faire un petit retour aux origines.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, Franck, c'est une question de Louis sur Europe1.fr. Pourriez-vous expliquer l'origine de l'horloge mécanique ?
Oui, Anissa, en un mot, parce que vraiment, il me reste très peu de temps. On entend des horloges sonner ici à Versailles, bien entendu. L'invention de l'horloge mécanique, pour répondre à Louis, c'est à peu près, on va dire, c'est une des technologies majeures du XIVe siècle. La véritable innovation, c'est le système dit d'échappement, un mécanisme qui permet d'entretenir de manière régulière et autonome le fonctionnement de l'horloge. Si j'en crois l'historien américain David Landes, il nous dit que le fait que l'horloge mécanique soit apparue en Occident et avec elle une civilisation organisée autour de la mesure et de la connaissance du temps est un facteur critique dans la séparation de l'Ouest et du reste du monde. En quelque sorte, c'est l'horloge qui fait l'Occident et qui tient notre civilisation. Alors à propos d'horloge, il y en a une qui se trouve juste au-dessus de nous, au-dessus de l'attique de la chambre du roi donnant sur la cour de marbre. C'est une horloge qui normalement ne fonctionnait pas, en tout cas sous l'Ancien Régime, puisqu'elle était là simplement pour indiquer l'heure de la mort du dernier roi. Pour ce qui est de Louis XIV, il est mort, on l'a dit, entre 8h05 et 8h23, ce 1er septembre 1715.